La première, il est 8h. Et à la une ce matin, ce grand risque d'épisode El Niño cet été.
Des pluies diluviennes en Amérique du Sud, la sécheresse en Asie. En Belgique, le prix des denrées alimentaires pourrait chauffer. À l'avenir, les entreprises de construction vertueuses en termes de pollution partiront avec un avantage dans les marchés publics en Wallonie. Une victoire, un but de Lukaku pour son retour et un système de jeu innovant. Match amical riche en enseignements pour les Diables Rouges contre la Croatie.
La météo avec Denis Collard.
Un petit peu de pluie qui s'évacue tôt ce matin vers l'est et puis une journée variable entre éclaircies, passages nuageux et quelques ondées. Vent modéré de l'ouest et température de 16 à 20 degrés.
Et c'est François Kirsch qui vous présente votre journal de 8h. Bonjour François.
Bonjour.
Ça se confirme, il y a 80% de probabilité que cet été, un épisode El Niño se développe.
Évaluation à valeur d'avertissement de l'Organisation Météorologique Mondiale. Et cet épisode El Niño risque d'être plus puissant que d'habitude. Il s'agit d'un phénomène naturel. Depuis plusieurs mois, les eaux du Pacifique se réchauffent rapidement à hauteur de l'équateur, ce qui ajoute de l'humidité dans notre système climatique et peut aggraver les événements extrêmes. Damien Roulette, est-ce que ça nous concerne ?
L'Europe ne ressentira pas de phénomène climatique directement lié à El Niño. Par contre, elle subira des conséquences indirectes. El Niño est susceptible d'affecter les prix et l'approvisionnement des produits alimentaires à l'échelle mondiale. Par exemple, en Asie du Sud-Est et en Océanie, la mousson sera plus faible et les sécheresses feront plus de dégâts. Patrick Meffroy, professeur en géographie à l'UC Louvain.
Un impact sur un certain nombre de cultures, maïs, riz, blé, mais aussi peut-être en particulier sur l'huile de palme, qui est une culture que les Européens importent beaucoup.
Au contraire, une partie de l'Amérique du Sud sera touchée par des pluies intenses et des inondations.
Et en Équateur, qui est un très gros producteur de cacao, après la Côte d'Ivoire et le Ghana, et où là, on s'attend plutôt à ce que l'excès de pluie puisse en avoir un impact négatif.
L'Organisation Météorologique Mondiale appelle d'ailleurs les pays à se préparer pour éviter des impacts sociaux importants. Le phénomène El Niño dure de 9 mois à 1 an et tire vers le haut la température moyenne mondiale d'une planète déjà en surchauffe. Il reste aujourd'hui deux incertitudes. Quand le phénomène atteindra-t-il son intensité maximale et quelle sera son ampleur ?
Le dernier épisode El Niño en 2023 et 2024 avait fait de ces années les deux plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Suite aux orages de ce week-end, le réseau d'eau est quasi remis en service à Jemeppe-sur-Sambre ainsi qu'à Auvelais et Velaine-sur-Sambre dans l'entité de Sambreville. Quasi. Attention, l'eau du robinet n'est toujours pas potable. Il faut attendre les résultats des dernières analyses de la qualité de l'eau. En attendant, les points de distribution d'eau restent toujours disponibles. Pareil à Nivelles, l'eau n'est toujours pas potable. Il faudra encore attendre.
L'impact carbone, un critère déterminant à l'avenir dans les marchés publics wallons.
Oui, à partir de l'année prochaine, pour l'octroi des marchés publics et d'infrastructures en Wallonie, l'impact environnemental des chantiers sera pris en compte dans la sélection des projets. Comment ça va marcher, Eva Secker ?
Eh bien concrètement, jusqu'à présent, les marchés étaient le plus souvent gagnés par les entreprises qui proposaient le prix le plus bas ou le délai le plus court. Mais dès 2027, l'impact CO2 pèsera dans la balance. Et donc pour deux offres au même prix, celle qui pollue le moins sera retenue. Cet impact carbone, il s'évalue sur deux éléments, comme l'explique François Desquennes, ministre wallon des infrastructures.
Il y a d'une part une certification des entreprises, une certification privée, ça s'appelle l'échelle carbone, ils doivent avoir un certain score pour pouvoir postuler au marché. Et puis deuxièmement, s'ils ont, dans le cadre de leur offre par exemple, intégré des déplacements en véhicule électrique, réduit les distances entre la zone d'approvisionnement et le chantier, tout ça va réduire leurs émissions de CO2, ils seront favorisés.
Les routes, les ravelles, les pistes cyclables ou les voies hydrauliques. Chaque année, la Wallonie investit environ 400 millions d'euros dans ce type de travaux. L'enjeu est donc important.
Nous devons agir pour réduire les émissions. Et d'autre part, c'est aussi une façon de finalement aider nos entreprises à être meilleures, plus compétitives. Parce que demain, le CO2 aura un coût. Et donc si on aide nos entreprises à aller vers une réduction d'émissions de CO2 dans les chantiers qu'elles organisent, eh bien, on va les rendre plus compétitives demain.
En Belgique, 30% des émissions de CO2 est liée au secteur de la construction.
Eva Secker avec le ministre Desquennes qui était donc l'invité de Matin Première pour parler mobilité. Justement, c'est aujourd'hui que la RTBF referme la troisième édition de l'opération Parlons Solutions. opération consacrée à la mobilité. La RTBF met un centre d'appel à votre disposition. Aujourd'hui, jusque 17h, formez le 02 737 37 77. Simon Bourgeois, vous êtes au call center qui vient d'ouvrir il y a 5 minutes en compagnie d'une quinzaine d'experts qui sont là pour répondre aux questions de nos auditeurs.
Oui, bonjour François. Effectivement, ils sont tous installés. Les téléphones commencent à sonner. Il y a des spécialistes voitures qui sont là, des spécialistes mobilité active, vélo, les services publics mobilité aussi, pour vous répondre à vos questions sur vos trajets domicile-travail, par exemple, sur un chantier près de chez vous, pour vous conseiller dans l'achat d'une voiture ou d'un vélo. Et puis, il y a aussi, évidemment, les transports en commun qui sont là, la STIB, le TEC et la SNCB, dont le porte-parole Tom Guillaume est à côté de moi. On va déjà épingler à cette heure-ci une question récurrente avec vous, comme ça, la réponse peut profiter à tous les auditeurs et pas seulement ceux qui appellent. Il y a des gens qui demandent quelles sont les offres pour aller en train au boulot. Combien est-ce qu'on est remboursé, par exemple ? Est-ce que ça vaut la peine de prendre un abonnement si je vais seulement 2-3 jours par semaine au bureau, si je télétravaille par exemple ?
Alors, il existe plusieurs formules d'abonnement. La formule, on va dire, classique, 5 jours semaine. Et depuis 2023, la SNCB a lancé le Flex Abonnement. C'est donc un abonnement à destination des travailleurs. Donc concrètement, le travailleur peut activer son abonnement 2 ou 3 jours par semaine. C'est une formule qui connaît un grand succès puisque maintenant, près de un tiers des abonnements domicile-travail sont des Flex Abonnements. Alors pour l'employé, il existe une formule qui est, on va dire, gratuite entre guillemets. Et c'est l'employeur qui paye 80% de l'abonnement et l'État, les pouvoirs publics payent les 20% restants. C'est une formule de tiers payeur. C'est une formule qui aussi existe depuis quelques années et qui connaît un succès croissant.
Voilà donc des solutions qui existent. Voilà, François, c'est le genre de questions auxquelles on vous répondra toute la journée ici dans tous les domaines de la mobilité.
Et on rappelle le numéro de téléphone, le 02 737 37 77. Le call center est ouvert jusque 17h.
Bruxelles Propreté mise sur l'intelligence artificielle pour nettoyer les rues de la capitale.
Une quinzaine de véhicules de Bruxelles Propreté sont équipés de caméras qui détectent la quantité de déchets jetés par terre. Cette intelligence artificielle développée par une entreprise suisse devrait permettre de mieux coller à la réalité de terrain. Sofia Kotsoglou a embarqué dans un camion.
Fouad vient d'arrêter sa camionnette pendant que son collègue vide une poubelle publique. Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Sur le trottoir traîne quantité de déchets.
Il y a les bonbonnes d'azote là, des pampers, des emballages, des cartons.
Tous ces déchets ont également été filmés par la toute nouvelle caméra embarquée sur son camion. Adèle Lassouli, porte-parole de Bruxelles Propreté.
On sait que les corbeilles publiques sont malheureusement un lieu de dépôt sauvage. Et donc là, tous ces déchets vont être captés par cette caméra.
L'algorithme distingue mégots, canettes, emballages plastiques et déjections canines et les localise sur une carte où chaque rue apparaît en couleur.
La voirie apparaît en rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment propre. En orange, ça veut dire qu'elle est moyennement propre. Et en vert, c'est-à-dire qu'on considère qu'elles sont propres.
Carole Verhagen, coordinatrice du projet chez Bruxelles Propreté.
Jusqu'à présent, les rues sont nettoyées toutes à la même fréquence, mais ce n'est pas vraiment connecté à la réalité du terrain. Parce qu'en réalité, il y a des rues qui nécessitent beaucoup plus de nettoyage que d'autres rues. Et grâce à cet outil objectif, on va pouvoir réorienter les équipes vers ces rues plus problématiques.
Le dispositif sera testé pendant un an à Anderlecht, Ixelles et Bruxelles-Ville. Si les résultats sont concluants, ces caméras intelligentes pourraient progressivement équiper l'ensemble de la flotte de Bruxelles Propreté.
Le trafic aérien reprend ce matin. Le mouvement de grève spontanée des contrôleurs de Sky s'est terminé hier soir. Le dialogue social a été rétabli entre syndicats et direction. Dans une semaine, le début de la Coupe du Monde de football, c'est chaque fois la même chose à l'approche de grandes compétitions sportives. Les publicités pour des téléviseurs de nouvelle génération se multiplient. Si vous êtes tenté, voici ce que deviendra votre ancien appareil, Jean-Christophe Willems.
Dans ce Recyparc, le coin destiné aux téléviseurs hors d'usage commence à bien se remplir. C'est un appareil que Récupel collecte en nombre. Valérie Rampy, la porte-parole.
L'an dernier, Récupel a collecté plus de 885 000 télévisions.
Près de 28 000 auront une deuxième vie, mais l'immense majorité sera recyclée.
Nous avons d'abord les matériaux ferreux, qui sont recyclés à 100%. Nous avons les matériaux non ferreux, comme l'aluminium, le cuivre, qui sont également recyclés à pratiquement 100%. Et nous avons enfin les plastiques qui sont recyclés à plus de 86%.
Par contre, recycler les terres rares n'est pas assez rentable. Les nouveaux téléviseurs auront encore besoin d'extraction minière. Fabrication et utilisation génèrent énormément de CO2. Jules Delcon, de l'Institut belge pour un numérique soutenable, donne l'exemple d'une TV de 77 pouces.
Avec des durées de vie moyennes, 5-6 ans, on estime quand même qu'on est à 3000 kg d'équivalent CO2, 3 tonnes. On rappelle que les accords de Paris, c'est 2 tonnes par personne par an pour tout. En 2050.
Les grands téléviseurs nécessitent énormément de ressources et d'énergie. L'idéal est donc de les conserver le plus longtemps possible. Les dernières générations sont prévues pour durer l'équivalent d'au moins 45 000 matchs de football.
Et du football, on en parle encore avec la Belgique qui a gagné son match amical en Croatie.
La victoire 0-2 des buts de Youri Tielemans et Romelu Lukaku, son 90e en équipe nationale. Le sélectionneur des Diables, Rudy Garcia, a mis en place un nouveau système de jeu en 3-5-2, c'est-à-dire avec 3 défenseurs centraux, 5 milieux et 2 attaquants. Le défenseur de Lille, Nathan Ngoy.
C'est pas rien, ça fait toujours du bien de gagner avec un nouveau système en plus. Donc non, c'est une victoire d'homme, c'est une victoire collectif. Et même les entrants, quand ils sont rentrés, ils ont mis leur pierre à l'édifice. Donc non, c'est bien. Et c'est bon pour l'avenir. On peut compter sur tout le monde et on peut voir qu'on peut jouer à des systèmes différents. Donc c'est encourageant.
Personne ne l'avait vu venir, ce nouveau système. Le coach dit qu'il l'avait en tête déjà au mois de mars, mais ça ne s'était pas trop prêté. Vous en avez beaucoup parlé ces derniers jours?
Non, pas vraiment. On n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer, mais on a réussi parce qu'on est des joueurs intelligents, parce qu'on a fait ce que le coach voulait. Et ça a marché, donc c'est bien vu du coach. Et ça nous donne une option en plus pour la Coupe du Monde. Maintenant, c'est au coach de voir comment on va jouer. Mais aujourd'hui, on a su gagner, c'est tout important.
Une interview de Manuel Jousse. Les Diables disputeront une dernière rencontre de préparation amicale samedi à domicile contre la Tunisie avant de s'envoler pour leur camp de base aux États-Unis. Tennis, ce mercredi, on dispute les derniers quarts de finale à Roland-Garros. Et chez les messieurs, 3 des 4 joueurs programmés aujourd'hui sont italiens. Flavio Cobolli, qui jouera face à Félix Auger-Aliassime. Et puis, il y aura un duel 100% transalpin, Matteo Berrettini contre Matteo Arnaldi. Même sans Lorenzo Musetti, absent cette année, et Yannick Sinner, éliminé au deuxième tour, le tennis italien est toujours au sommet. C'est le cas depuis plusieurs années, Christine Anker.
Oui, l'Italie a gagné les 3 dernières Coupes Davis. L'Italie a 6 joueurs dans le top 100 et 14 joueurs dans le top 200. Il y a une quinzaine d'années, on en était loin, mais tout a changé parce que la fédération italienne a décidé d'agir et de monter un projet. Cette fédé travaille maintenant en collaboration étroite avec les structures privées. Œuvrer main dans la main plutôt que de se faire la guerre, c'est aussi ce qui se passe en Belgique. Faire de la formation des entraîneurs une priorité, initier les enfants au tennis dans les écoles, monter une chaîne de télévision consacrée à ce sport, créer des terrains en dur et plus seulement en terre battue, voilà d'autres axes très importants. Et puis, il y a les tournois. En Italie, il y a une soixantaine de tournois professionnels de tout niveau. Les nouveaux venus laissent très tôt tomber le circuit junior pour s'aguerrir auprès de joueurs plus forts grâce à des invitations délivrées à domicile. Ils prennent des points, ils amassent de l'expérience et ils recommencent au niveau supérieur. Voilà sans doute l'explication numéro 1 du succès du tennis italien.
Et les premières demi-finales sont connues à Roland-Garros. Dans le tableau masculin, Alexander Zverev sera opposé à Jakub Mensik et chez les dames, Mira Andreeva affrontera Marta Kostyuk.